Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Vous vous en doutez sans doute aujourd'hui, eh bien nous allons célébrer ensemble la réouverture des salles mercredi prochain.
Alors, qu'est-ce que tu en dis ? On leur fait voir ce film ?
Ça serait chouette ! Mais comment on peut faire ça ?
Après plus de 200 jours de fermeture du jamais vu dans l'histoire de notre pays, alors justement dans notre récit, je vais vous raconter cette année noire pour le cinéma et les cinémas avec toutes nos archives et on ira également à votre rencontre, savoir ce que vous attendez de cette ouverture des salles. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Quel film vous attendez le plus ? Quel film vous irez voir ? Voilà, on a hâte de vous écouter. 14h30, les films de ma vie, vous connaissez le principe. Une personnalité répond à notre questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et pour cette émission spéciale, une invitée spéciale, c'est Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, qui s'est prêtée au jeu. Alors par exemple, quel est son premier souvenir de cinéma ?
J'ai 7 ans et j'ai pas d'argent. Et ma grand-mère habite le même village. Je vais donc faire le mur. Je suis arrivé près de ma grand-mère, je lui dis « il me faut un franc ». Je crois que ma grand-mère a pas très bien compris pourquoi. Et j'ai eu un franc pour aller pour la première fois au cinéma.
Voilà, pour découvrir les autres souvenirs cinéma de Roselyne Bachelot, rendez-vous dans une demi-heure. Juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour enfin reparler des films en salle. Au programme aujourd'hui, les ressorties. Faut-il aller voir donc Adieu les cons d'Albert Dupontel et ses 7 Césars, Drunk de Thomas Vinterberg et son Oscar, ADN de Mai Wen ou Garçon chiffon de Nicolas Maury. On vous dit tout, tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre Clap spéciale réouverture des salles. Et tout de suite donc, notre récit consacré à cette année noire pour les cinémas français.
Europe 1. Le récit.
Rappelez-vous, c'était fin août, le tout premier numéro de Clap, votre nouvelle émission cinéma, enregistrée depuis le Festival du film francophone d'Angoulême. Toute la grande famille du cinéma français avait fait le déplacement. À cette époque, on en était persuadé, les salles rouvraient, les films ressortaient, le public revenait, le cinéma repartait. Et Dominique Besnéard, le délégué général, voulait y croire.
Alors j'espère que les gens vont revenir, même s'il y a des petits rebonds. Maintenant, on a l'impression qu'on gère très bien, qu'il y a des masques, que tout le monde a des masques, et que la vie continue, et la vie continue au cinéma, à Angoulême, puisqu'on est le détonateur de cette nouvelle saison.
D'ailleurs, l'offre de films était au rendez-vous. Et pour la première fois depuis longtemps, la part de marché des films français remontait. Il faut dire que les films étrangers se faisaient rares, mais qu'importe. Adieu les cons, par exemple, d'Albert Dupontel, attire plus de 700 000 spectateurs en 10 jours. Sauf que très vite, dans ce ciel ensoleillé, les nuages refont leur apparition. Car petit à petit, les consignes sanitaires se durcissent de nouveau. D'abord, il y a ce couvre-feu décidé à la mi-octobre. À 21h, tout le monde devra être chez soi. Pendant plusieurs jours, les professionnels de la culture et donc du cinéma ont cru que le ticket pourrait servir de laissez-passer et sauver la fameuse séance du soir. Mais le Premier ministre tranche.
Je crois qu'il nous faut des règles très claires et très simples et ces règles doivent être les mêmes pour tous. Le couvre-feu, c'est à partir de 21h. Tout le monde doit être chez soi à 21h. S'agissant du secteur de la culture impacté par ces dispositions, je suis sûr que ce secteur va aussi s'adapter à ces règles du jeu. Mais encore une fois, il est clair, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde.
Alors les tournages se poursuivent, bon an mal an, avec un protocole sanitaire très strict. Angèle Châtelier se rend pour Europe 1 sur le tournage du film Le Torrent, réalisé par Anne Leny et porté notamment par José Garcia.
Dis-moi Gaël, je t'ai donné une fiche pour le PCR de demain matin, il y a une infirmière qui vient de 9 à 11.
Paul est technicien sur le tournage, responsable du matériel, mais en ce moment, il s'improvise assistant infirmier et alpague les autres membres de l'équipe avant la pause déjeuner pour leur rappeler de se faire tester. Il y a d'abord eu un PCR avant le tournage, maintenant c'est un tous les 15 jours. Il ne faut prendre aucun risque. D'ailleurs, tout le monde porte son masque. Même la star du film, José Garcia, le garde jusqu'au tout dernier moment.
Action !
Il le retire pour jouer sa réplique.
Tu crois que les gendarmes vont me croire ?
Oui, c'est très bien comme ça.
L'équipe nous empêche même d'approcher les acteurs. Car si 3 personnes sont testées positives, le tournage s'arrête. Et ce protocole Covid a déjà coûté 10 000 euros à la production.
Sauf que le 30 octobre, le coup près tombe. Nouveau confinement, toutes les salles de cinéma doivent refermer. On est alors loin d'imaginer que c'est parti pour plus de 200 jours d'écran noir. Car si la France se déconfine le 15 décembre, ce n'est qu'en partie. Les cinémas, comme le reste des lieux culturels d'ailleurs, restent fermés. Les politiques ont tranché. Le réalisateur Claude Lelouch ne comprend pas.
Moi, j'ai été élevé au grand écran, à la grande salle de cinéma. Je veux dire qu'il m'est très difficile de voir des films sur des petits écrans. Je ne peux pas m'en passer. Vous savez, moi, j'ai 83 ans et je vais au cinéma tous les jours. C'est la première fois dans mon existence que j'ai été privé de cinéma. Même pendant la guerre, je pouvais aller au cinéma. Voilà. Donc, c'est un manque énorme. Surtout, on ne peut pas se priver de rêve. On peut mourir de tout, sauf d'une overdose de rêve. Et c'est la culture, elle est là pour nous faire rêver.
Quant à Nathanaël Karmitz, qui préside les cinémas MK2, il est en colère.
L'ensemble du secteur de la culture était prêt. Les films qui avaient déjà été arrêtés à cause du confinement étaient prêts à reprendre l'affiche. De nouveaux films étaient prêts à prendre l'affiche. Le tout dans un protocole sanitaire très strict, il faut le rappeler. Aucun cluster dans le monde n'a été détecté dans une salle de spectacle ou dans une salle de cinéma. C'est un choix politique qui a été fait. On a choisi de privilégier la consommation, les cultes avec l'ouverture des églises et les transports, plutôt que la culture en général. Là, on est juste dans une situation où on ne peut plus comprendre les décisions qui sont prises parce qu'elles sont incohérentes.
Alors certains cinémas tentent quand même d'innover pour survivre. Une petite salle de Mayenne, par exemple, vend ses sucreries. Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, se rend sur place.
Il y a des coca, tous les bonbons Haribo, ils sont à 1 euro.
Boissons, confiseries et même pop-corn, cette opération déstockage à l'entrée du palace.
Vous m'en mettez au moins 10 paquets, 32,50.
Ouais. Derrière son comptoir, Joël Hanau n'aurait jamais pensé à une telle reconversion.
Je fais la marchande.
Mais voilà, son cinéma doit écouler toute sa marchandise, il y en a pour 1500 euros, mais la gérante n'en fait pas qu'une histoire d'argent.
Les dates se périment, on est obligé de mettre ça en vente, en même temps on fait plaisir. Et puis ça recrée un lien, enfin, pour moi je vois du monde, j'ai des coups de téléphone, j'ai des mails. Ça met un peu de vivant.
Mais tout le monde reste atterré. Pourquoi les salles sont-elles fermées alors que certains commerces, eux, ont eu le droit de rouvrir ? Et surtout que plusieurs pays dans le monde rallument leurs projecteurs, certes avec un protocole sanitaire strict, mais ils rallument leurs projecteurs. Début mars à New York, par exemple, Alexis Guilleux tourne un reportage devant un cinéma de Broadway.
Oui, pas de file d'attente devant ce cinéma de Broadway, mais des petits groupes d'amis et des couples qui franchissent ces portes restées closes pendant presque un an.
I'm very excited to see people again.
Je suis ravi de voir des gens à nouveau, dit Nick. On voulait soutenir l'industrie et la ville également, rajoute sa compagne Jess, heureuse de retrouver une expérience en communauté tout en respectant les règles sanitaires. Car la prudence est de mise, 25% des sièges maximum, pas plus de 50 personnes par salle, le masque obligatoire pendant tout le film. Dans ces conditions, de nombreux cinémas indépendants ont décidé de rester fermés. Jordan, elle, voulait venir dès le premier jour car rien ne remplace une salle de cinéma.
On a une super télé, on regarde plein de choses. On est abonné à tous les services de streaming, mais il n'y a pas de comparaison possible.
Sauf qu'en France, la colère monte. Les exploitants de cinéma ne comprennent pas pourquoi eux ne peuvent pas rouvrir, même avec un protocole renforcé. Certains décident donc de braver l'interdiction, le temps d'un week-end, le 13 mars, à Caen notamment.
Oui, alors c'est une séance de cinéma presque comme avant, mais presque parce qu'il n'y a pas de pop-corn et que l'entrée est gratuite. Autre différence, ici le public est mis à contribution avec un questionnaire à remettre à la fin de la projection. C'est comme ça que le cinéma a eu le droit d'ouvrir sous forme de projection test. Alors sans trop de surprises, la séance était complète. Elodie a dû faire très vite pour prendre sa place.
Moi j'adore aller au cinéma et du coup ça fait trop longtemps que j'y suis pas allée, donc ça me paraissait essentiel de profiter de cette opportunité. Voilà.
Mais le gouvernement reste inflexible. Toujours aucune réouverture en vue. Il faudra attendre fin avril pour que la bonne nouvelle arrive. Les salles pourront donc rouvrir le 19 mai, mercredi prochain. Certes, avec un protocole sanitaire renforcé, mais l'essentiel est là. Les films vont pouvoir être projetés. Richard Patry, qui préside la Fédération nationale des cinémas français, ne cache pas sa joie.
Enfin, c'est un vrai ouf de soulagement, c'est un vrai bonheur. Mais sincèrement, pour l'ensemble des 15 000 collaborateurs des salles de cinéma qui se sentent totalement inutiles depuis 6 mois, qui n'ont rien fait depuis 6 mois, les restaurants, eux, ont eu au moins la vente à emporter. Nous, on n'avait rien. Et puis surtout, enfin pour les spectateurs qui vont pouvoir quitter leurs petits écrans et leur télévision pour pouvoir venir découvrir un grand film dans une grande salle de cinéma, c'est capital.
Reste un problème, et pas des moindres. 400 films qui auraient dû sortir dorment dans les cartons. Et très vite, les distributeurs annoncent leur date de sortie. Embouteillage en vue, aucune entente. Éric Lagesse dirige la société de distribution Pyramide et copréside le syndicat des distributeurs indépendants. Il décide de sortir, dès la réouverture, son film L'Étreinte, porté par Emmanuel Béart. Et vient s'en expliquer sur Europe 1.
Déjà, si on attend 3, 4, 5 mois, les salles, elles vont passer quoi comme film ? Il faut nourrir les salles et après, si vous voulez,
Le couvre-feu aussi est quelque chose qu'on a expérimenté en octobre, hein, je vous le rappelle. Je vous rappelle qu'Adieu les cons, par exemple, avait été le meilleur démarrage de la carrière d'Albert Dupontel avec un couvre-feu. Donc, en fait, il y a des films qui marchent très très bien l'après-midi. Après, le couvre-feu à 21h peut faire qu'un film qui fait 1h30, comme L'Étreinte, par exemple, si la séance est à 19h, les gens peuvent être chez eux à 21h.
C'est ainsi que, chaque semaine, dès mercredi prochain, ce sont des dizaines de films qui sortiront en salle. Alors certains tireront leur épingle du jeu, mais d'autres seront à peine visibles pour les spectateurs. Énième conséquence d'une année terrible pour le cinéma français. Et justement, en vue de cette réouverture, on a eu envie d'aller à votre rencontre pour savoir si les cinémas vous ont manqué, quel film vous attendez le plus ces prochaines semaines et qu'est-ce que vous ressentez à l'idée de retourner dans une salle. On vous écoute dans un tout petit instant dans la suite de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Mais d'abord, Claude Nougaro qui nous chante justement le cinéma. Vous êtes à l'écoute d'Europe 1 et on célèbre ensemble la réouverture des salles mercredi prochain.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, un grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches, je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Arrive en avalanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène cinéma.
Et on est toujours ensemble dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, pour célébrer la réouverture des salles mercredi prochain après plus de 200 jours de fermeture. Et justement, on avait envie de vous entendre, parler de votre plaisir de retourner au cinéma. Est-ce qu'il vous a manqué? Quels sont les films que vous attendez le plus? Marjorie Adelson vous a tendu son micro. Le mixage est de Nicolas Baudin.
Ah bah écoutez, je suis ravie. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup handicapé et manqué pendant toutes ces phases de confinement, déconfinement. Moi, je suis quelqu'un qui va au cinéma avec au moins 2 ou 3 fois par semaine, j'ai une carte d'abonnement. Et donc, pour moi, ça va être un vrai bonheur que de retourner dans les salles obscures.
D'accord, donc dès mercredi prochain, on vous verra.
Absolument, absolument.
Je pense que c'est une bonne chose. On en a besoin, on a besoin de souffler. C'est une bonne chose. Après, avec les demi-jauges, c'est un peu moins sympa. Ça enlève un peu l'aspect festif.
Par contre, moi, je suis trop content de pouvoir revenir au cinéma. Je suis pas d'accord avec le monsieur. Je pense que les demi-jauges, c'est une bonne chose. Comme ça, on est tranquille dans le cinéma. On peut se faire des bisous. et je pense que c'est une bonne chose, voilà.
Ben moi, personnellement, j'allais au cinéma plus d'une fois par semaine. Donc, bah oui, ça m'a beaucoup manqué pendant le Covid. C'est sûr que regarder des films sur Internet, c'était pas du tout pareil. Et j'attends avec impatience de retourner dans toutes les salles. En plus, il y a les films qui sont comme Adieu les cons, là, qui sont sortis juste 2 jours. C'est très dommage parce que j'avais dit à tout le monde d'aller le voir autour de moi et personne n'a pu le voir. Et tout le monde a attendu pendant Covid, oui, tu m'as dit de voir ce film et tout. Et je leur dis, mais il va sortir, mais il n'est pas encore sorti. Donc oui, effectivement, je suis trop contente.
Alors, monsieur Cuchor, Cuchasse, monsieur Cuchesse, voilà. Le ministère souhaite que la réorganisation des services soit confiée à quelqu'un de plus...
Plus compétent?
Non.
Plus jeune?
Non. Enfin, si.
Vous m'avez dit, je prends la direction de la zone nord, monsieur Kurzman.
Oui. Mais en fait, non.
Ce serait faux de dire qu'on s'en fiche. C'est quand même un rituel, le cinéma. C'est un truc important. Même pour le moral, parce que c'est des moments un peu de légèreté où on profite de la vie, quoi. Le cinéma, c'est un peu à ça que c'est associé.
Je suis très enthousiaste et j'espère qu'ils vont respecter quand même, bien sûr, les distances sociales. Je suis bien sûr intéressée par la qualité des films, mais tellement ça me manque que je peux même aller dans un film bête, juste pour être au cinéma. Voilà.
La salle vous manque?
Oui, la salle me manque et aussi, moi je suis turque et mon grand-père, il avait un cinéma. Et j'ai grandi dans les cinémas, donc vraiment, je me sens vraiment dépaysée en ce moment, loin des salles de cinéma.
Moi, je pense que je vais y aller dès la réouverture. Enfin, j'attends ça depuis longtemps. Enfin, il y a un bon nombre de films que je voulais voir depuis un petit moment, même si je suis pas particulièrement un adepte du cinéma régulier. Là, je compte bien y aller parce qu'il y a vraiment pas mal de films, notamment OSS 117, pour citer que celui-ci que j'aimerais aller voir dès que ça réouvre.
Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Que savez-vous de l'Afrique?
Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards.
Ce sont nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium.
Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères, retrouvez-nous le 2021. Ce fichu microbe nous a mis un de ces micmacs dans le calendrier, mon vieux.
Pourquoi OSS 117 particulièrement?
Parce que je pense qu'on l'attend tous avec impatience et avoir un peu d'humour fera du bien pour tout ce qui s'est passé récemment et avoir été aussi longtemps enfermé, je pense que ça va nous faire du bien.
En plus, il y aura Pierre Niney, je crois. Il est très sympa comme acteur. Donc oui, on ira le voir. Hein?
Oui.
Oui.
Ouais, je suis d'accord.
Et on s'était dit tout à l'heure que l'autre réflexe était aussi Netflix et tout. Donc il y a aussi une question de concurrence parce que du coup on a changé nos pratiques.
C'est ça, ouais.
C'est-à-dire, du coup, comment vous consommez maintenant?
Depuis le confinement, on est plus sur Netflix, Prime Video, sur du coup des plateformes internet. Et dans ces plateformes, il y a déjà des films, donc ce n'est pas de nouveaux films. Hein. Mais du coup, il y a pléthore de choix, donc on est déjà substanté, si je puis dire. Donc après, à voir, mais c'est vrai que c'est une question qui moi, m'était sortie de la tête, hein, les nouvelles sorties. J'ai pas ça en tête, malheureusement.
Je ne vais pas ni au cinéma, ni au théâtre, et je ne lis pas de romans non plus. Je veux dire par là, les histoires fabriquées ne m'intéressent pas. Alors je regarde le journal télévisé, voilà, le réel, la vie en direct, quoi.
Et les documentaires, alors?
Oui, les documentaires, éventuellement, oui, voilà.
Donc ça change rien pour vous? Vous vous sentez pas parfait?
Non, j'ai 73 ans, donc vous voyez que... J'ai l'espérance de la vie, quoi, hein, bon, voilà.
Il y en a un autre qui était repoussé, que j'ai oublié. Ouais, Kaamelott, voilà.
Ah, Kaamelott, alors, ça m'intéresse.
Qu'est-ce que...
C'est elle qui...
Ah, c'est vous qui l'avez... Alors,
et ben, on a vraiment hâte que le film Kaamelott sorte au cinéma, parce que ça fait hyper longtemps qu'on l'attend. Et ouais, bah, c'est vrai que... Après, je dirais pas que je suis fan non plus, si un peu, mais... Ouais, non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'attend, et que, comme il avait déjà été repoussé avant le Covid, maintenant, ça fait plaisir qu'il sorte.
Sire, sire!
C'est pas des conneries, faut vraiment qu'on vous parle!
Sire, ouvrez, on en a gros!
Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche!
La sourde oreille!
Quoi?
C'est pas le moment de faire la sourde oreille!
Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous, rien, c'est l'autre con qui a dit c'est pas le moment de faire la fine bouche, dans le contexte, c'est déplacé.
Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros.
On en a gros!
Ça fait un peu peur aussi en même temps, je pense, que tout réouvre d'un coup, comme ça, d'un coup. Enfin, on a été habitués, du coup, maintenant, en un an et demi, donc... Je pense que c'est un peu angoissant aussi. On a pas mal d'amis qui nous disent qu'ils vont pas sortir tout de suite parce qu'ils font attendre l'adaptation et tout. Donc Voilà.
Et par exemple, vous, vous allez aller au cinéma tout de suite ou vous allez attendre un petit peu?
Bah moi, je suis pas très cinéma, mais s'il y a Kaamelott, ouais, j'y vais tout de suite.
En plus, il va y avoir une affluence, genre, tu sais, tous les mainstream qui vont vouloir y aller en mode oh « Moi, je vais retourner voir des cinémas, comme des gogoles. » Les bars, voilà, c'est autre chose.
Bon, pareil.
Tu seras plus au bar ou au cinéma?
Après, alors là,
on peut faire les deux, on peut faire les deux.
En vrai, ouvrir un bar cinéma, là, ça a du succès. Bar cinéma, c'est pas mal, je pense.
Attends, on sait quelque chose.
Là, on a une remarque pertinente.
Je dépose l'idée actuellement. Un bar cinéma, je pense qu'on peut faire vraiment un truc cool.
je suis le seigneur Caradoc. Je suis chevalier de la table ronde, alors vous fermez vos gueules, ok?
En dehors du fait que je suis absolument ravi de revoir les salles s'ouvrir, que voulez-vous que je vous dise?
Je vais
redevenir un client assidu, voilà, des cinémas qui seront réouverts.
Quel bonheur de vous entendre parler de ce plaisir de retourner en salle dès mercredi. Vous avez cité pas mal de films, bien sûr, on va en reparler dans l'émission hein, tout au long de ces semaines. Et tout à l'heure, d'ailleurs, nous débattrons des films qui ressortent en salle. Mais d'abord, je vous le disais, à émission exceptionnelle, invité exceptionnel. Dans un instant, c'est la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui répond à notre questionnaire « Les films de ma vie » et qui partagera donc avec nous ses plus grands souvenirs de cinéma. Restez à l'écoute.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, émission spéciale réouverture des salles, puisque ça y est, mercredi, nous allons pouvoir retourner dans des salles de cinéma. Et à émission spéciale, eh bien, invité spécial pour cette séquence « Les films de ma vie ». Aujourd'hui, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes prête pour notre questionnaire cinéma?
Je suis prête.
Alors d'abord, racontez-moi votre premier souvenir de cinéma.
Ah, mon premier souvenir est un choc émotionnel très important parce que j'étais en pension et on nous apprend qu'on va nous emmener au cinéma. C'est la première fois de ma vie que je rentre dans une salle de cinéma et que ça coûtera 1 franc. J'ai 7 ans et j'ai pas d'argent. Je suis dans un pensionnat où, dans une ville de Bretagne, et ma grand-mère habite le même village. Et je me dis, il faut absolument que je trouve cet argent. Je vais donc faire le mur, parce que j'ai vu qu'il y avait un créneau de 1 quart d'heure où je ne serais pas surveillée. J'ai couru. Je suis arrivée près de ma grand-mère, je lui dis, il faut un franc. Je crois que ma grand-mère a pas très bien compris pourquoi. Et j'ai eu 1 franc pour aller pour la première fois au cinéma. C'était Heidi, de Luigi Comencini.
Écoute voir, Eddie, ça te dirait des fois de venir avec ta tante?
Où ça?
Le boulanger m'amène à la station en bas. Il te prendrait sur son char.
Faut d'abord que je demande à grand-père.
C'est pas la peine puisque tu viens avec moi. On va lui faire une surprise. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour lui rapporter?
Je sais pas. Du tabac et puis une pipe?
Voilà, c'est ça. Et c'est toi qui lui feras la surprise.
Oh, oui. Mais faut alors se dépêcher.
Oui.
Et je me souviens peut-être aussi parce que il avait fallu conquérir cette place de cinéma de haute lutte, le choc que ça a été pour la première fois de rentrer dans une salle de cinéma et de voir un film qui était un peu gnangnan, il faut bien le reconnaître. Mais le contexte est unique.
Votre meilleur souvenir en salle, Madame Bachelot?
J'en ai tellement, mais mon meilleur souvenir en salle, décidément, c'est encore ma grand-mère qui est dans le film, si je puis dire. Elle était dingue de cinéma. Ma grand-mère ne savait ni lire ni écrire, mais elle adorait le cinéma et elle m'emmenait, quand j'étais avec elle en vacances, plusieurs fois au cinéma par semaine. Au moment des scènes d'amour, elle me disait de mettre la main devant mes yeux, mais vous pensez bien que j'ouvrais les doigts au maximum. Et elle était dingue de films américains et en particulier de western.
Ah.
Je pense que mon meilleur souvenir à ce moment-là, c'est L'homme au Colt d'or de William Wheeler avec le trio magique Henry Fonda, Vin Mark et Anthony Quinn. Mais j'ai vu tous les westerns des années 50 et 60 à ce moment-là.
Je dis que le moment est venu de prendre les armes pour nous défendre. Hier, c'était la 4e fois en 1 mois que la ville s'est arrêtée de vivre, à moitié morte de peur à cause de ces cowboys. Nous avions confiance en Thompson, il a foutu le camp.
Pendant que tout le monde se cachait.
C'est très juste, mademoiselle Jessie.
Est-ce que ce surhomme va mater nos bêtes sauvages par le simple pouvoir de son œil d'acier ou par la menace de ses colts d'or ou simplement par sa réputation?
Rien de tout cela, mademoiselle Jessie. Sa seule chance à Warlock, c'est d'être imperméable aux balles.
Votre pire souvenir en salle?
Alors, mon pire souvenir en salle, c'est Salo ou les 120 jours de Sodome de Pier Paolo Pasolini. Je me souviens, c'était au 14A à Nantes. Et c'est la seule fois de ma vie où, véritablement, j'ai eu un malaise. Je me suis senti mal. J'ai été obligé de sortir de la salle du cinéma quand a commencé, vous connaissez le film, ouais, avec les différents cycles, quand a commencé le cycle de la merde, je me suis dit, c'est pas possible que ça se passe au cinéma, tout en reconnaissant la valeur du film. C'était pour moi insupportable. C'est mon pire souvenir de cinéma.
Faible créature enchaînée, destinée à notre plaisir. J'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort.
Est-ce qu'il y a un film dans lequel vous aimeriez vivre, Roselyne Bachelot ?
Vous savez, avec quelques copines, on a fondé une sorte de cinémathèque quand on avait 20 ans. Et on passait des films, mais ça a été pour moi aussi une découverte, puisque je suis passé d'un rôle passif de spectateur à travers cette cinémathèque que nous avions fondée à l'analyse des films. Mmh. Et le film qui m'a sans doute le plus marqué, que j'ai le plus décortiqué avec mes amis, c'est La règle du jeu de Jean Renoir. Mmh. Avec cette satire sociale inouïe, moi qui vivais dans un milieu bourgeois, je regardais les gens qui étaient autour de moi d'une autre façon. Et puis cette caméra de Renoir, cette profondeur de champ qui permet à la fois de suivre les protagonistes sur le plan et sur l'arrière-plan. Et je me suis dit à ce moment-là, j'aimerais tourner dans ce genre de film.
Pardon, monsieur André Jurieux, écoutez, vous ne pouvez pas refuser de nous dire quelques mots. Dites quelques mots au micro, monsieur. Vous venez de faire un raid au-dessus de l'Atlantique, vous étiez seul en avion pendant une journée, vous avez bien quelque chose à nous dire. Trouvez quelque chose, dites-leur n'importe quoi, vous êtes content.
Je suis très malheureux. Je n'ai jamais été aussi déçu de ma vie. J'ai tenté cette aventure à cause d'une femme. Elle n'est même pas là pour m'attendre. Elle ne s'est même pas dérangée. Si elle m'entend, je lui dis publiquement qu'elle est déloyale.
Et je dois dire qu'une de mes phrases cultes, c'est la phrase du cuisinier à Madame de la Bruyère qui lui demande de saler ses plats au sel marin et lui dit ensuite à ses aides, j'accepte les régimes mais pas les manies.
Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mère La Bruyère ? Madame La Bruyère, mangerait comme tout le monde. J'accepte les régimes mais pas les manies.
Et très souvent, quand je me dispute avec quelqu'un qui me présente des revendications un peu absconses, je dis « j'accepte les régimes, pas les manies ».
Et quel est le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer ?
Le film que j'aime et que j'ai honte de l'avouer, j'ai un peu honte d'aimer Amélie Poulain, mais je devrais pas avoir
honte. Non.
Oui, c'est très bien. J'adore. Je l'ai vu au moins 3 fois. Je me dis, il y a des grands films intellectuels. Oui. Je devrais dire que j'ai vu 10 fois Les 7 samouraïs ou Citizen Kane. Voilà.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages? C'est Amélie. Amélie Poulain. Et elle va changer leur vie.
Quel est le film qui vous a fait le plus rire, Madame Bachelot?
Les Tontons Flingueurs. Ah, mais avec mon fils qui est à dingue de ce film, nous passons des déjeuners de dimanche où nous nous récitons tous les deux les répliques cultes des Tontons Flingueurs. Il y a de la pomme ou il n'y a pas que ça.
C'est laquelle votre préférée, justement?
La noblesse des travaux des travaux ménagers. La scène de la cuisine nous remplit de bonheur.
Mais dis donc, on n'est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas sans noblesse. Surtout lorsqu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses, hein?
Mais pour en venir au travail, Manuel, là, ce que vous disiez est finement observé. Et puis, ça reste une base.
Ça, c'est bien vrai. Hein? Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Et le film qui vous fait le plus pleurer?
Philadelphia.
Ah!
véritablement, ou éventuellement Forrest Gump. Hein? Forrest Gump et Philadelphia déclenchent chez moi des torrents de larmes, irrépressibles.
On dirait que quelque chose s'est emparé de vous ces derniers temps, je ne sais pas, une espèce de confusion, de flou artistique.
Et pas mal de gens vous trouvent un comportement caractériel.
Excusez-moi, est-ce que vous me virez ?
Je verrais plutôt les choses ainsi. Votre avenir au sein de notre cabinet n'est plus du tout assuré. Et nous sommes d'avis qu'il serait injuste de vous garder alors que vos perspectives sont limitées. Voilà. Je ne veux pas avoir l'air de vous chasser, mais...
Nous avons une réunion du comité. Excusez-moi, Charles !
Peut-être aussi parce que cela correspond à des combats de ma vie. Philadelphia, j'ai été vraiment dans les premières équipes qui ont lutté contre le sida et pour le fait que les malades soient soignés, soient intégrés dans la société. Et puis Forrest Gump porte un regard tellement tendre sur le handicap intellectuel que je me sens véritablement emporté par ces films, et l'acteur qui joue finalement dans les deux n'y est sans doute pas pour rien.
Et pour finir, Madame Bachelot, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie ?
Eh bien, c'est encore La Règle du jeu.
Ah.
Parce que cette bande originale qui mélange à la fois de la musique classique, mais aussi en revenant de la revue, c'est quelque chose qui m'a plu, mais parce que elle s'intègre dans l'ensemble de l'œuvre. C'est évidemment une musique qu'on peut se passer et se repasser.
Mais elle ne vous aime plus, sinon elle n'irait pas s'afficher avec cet imbécile de Saint-Aubin. Partons ensemble, Robert.
Où ça ? Ici, je suis chez moi, je ne vais tout même pas tout abandonner.
Oh, que vous êtes agaçant avec votre sens de la propriété ! Comme si ça avait de l'importance, une maison !
14h-15h sur Europe 1, clap.
Beaucoup Rosine Bachelot d'avoir joué le jeu.
Merci.
Et puis donc on dit aux gens d'aller en salle, ça y est, c'est reparti.
Oh voilà, oh, ça y est, les salles vont réouvrir et il y a plein de films.
Et justement pour vous aider à y voir plus clair, on va en débattre dans un tout petit instant, le temps d'accueillir mes collègues critiques. Alors cette semaine, on va parler des films qui ressortent en salle, notamment Adieu les cons d'Albert Dupontel, Drunk qui vient d'être oscarisé, ADN aussi de Mai Wen et Garçon Chiffon. Voilà, restez à l'écoute de Clap, à tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma et les salles qui rouvrent. Ça y est, pour en parler, je suis heureux d'accueillir Thierry Chaise de Première, Fabrice Leclerc de Paris Match. Messieurs, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On va raconter le cinéma, bonjour.
Voilà, ça y est, super, ça rouvre mercredi prochain. Alors on va faire ça en deux fois dans Clap. Pour aujourd'hui, on va parler des films qui ressortent en salle, puisque vous savez, ils sont nombreux. On va parler de Drunk, on va parler d'Adieu les cons, on va parler de Garçon Chiffon, on va parler d'ADN. Et puis la semaine prochaine, on retrouvera nos bonnes vieilles habitudes. On ira vous voir à la sortie des salles pour savoir ce que vous avez pensé de toutes ces nouveautés qui sortent. Ça y est, c'est reparti. On commence donc par parler des ressorties. Messieurs Thierry Chaise, Fabrice Leclerc, si je vous dis Adieu les cons, j'allais dire nouveau film d'Albert Dupontel, mais qu'on a l'impression d'avoir vu longtemps.
Bientôt, alors. C'est un message.
Avec Nicolas.
Merci à vous.
Hein. Combien de Césars, Adieu les cons ?
7.
7 Césars depuis. Ouais. Extrait.
Bonjour. Vous êtes qui ?
Je suis trappé. J'étais à l'agence de santé.
Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier.
On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail.
C'est sur moi que je tirais.
Ah bon ?
Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez. Oui. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
Adieu les cons, Albert Dupontel et JB, fonctionnaire geek qui a décidé de mettre fin à ses jours après s'être vu refuser cette promotion qu'il attendait tant. Par chance, pour nous spectateurs, il se loupe et va croiser la route de Suze, une coiffeuse atteinte d'une maladie incurable à cause des produits toxiques qu'elle a utilisés toute sa vie et qui a décidé de mettre à profit les quelques semaines qu'il lui reste à vivre pour retrouver l'enfant qu'elle avait abandonné à la naissance. Les voilà partis tous les deux. Ils vont croiser la route d'un archiviste aveugle, ça s'invente pas, d'un romantisme fou, il est joué par Nicolas Marié. Et voilà, on est avec eux. Alors, c'est comme souvent hein, avec Albert Dupontel, à la lisière de la fable, il y a du burlesque, il y a évidemment du politique, il y a des vrais moments romantiques. Moi, j'en garde un très, très, très bon souvenir. Ça avait déjà très bien marché lors de sa première sortie en salle. Ça ressort mercredi prochain. Fabrice, on y va ?
Eh ben voilà, je pense que Albert Dupontel a fait le film de trop.
Qu'est-ce qui lui arrive ?
Ah bah oui. Moi, alors oui, Dupontel a du talent. Oui, Dupontel sait raconter des histoires. Oui, Dupontel sait mettre en scène un film. Tout à fait d'accord.
C'est pas mal déjà ça.
C'est déjà un bon début.
Alors à partir de là, il faudrait qu'il arrête de se répéter. Moi, je trouve que c'est réellement le film de trop. Ça ne fonctionne plus chez moi alors que j'ai adoré ses précédents films. Non, ça ne marche plus parce que je vois tous les rouages, je vois toutes les coutures. Virginie Efira, heureusement qu'elle est là parce que je pense sinon j'aurais eu un avis encore plus tranché sur le film. Dupontel tourne en rond pour moi, il se mord la queue beaucoup. Il y a toutes les thématiques de Dupontel. Moi, j'aimerais voir autre chose de lui. J'aimerais aujourd'hui qu'il aille ailleurs, pas qu'il refasse le même film et surtout qu'il ne se mette pas, parce que ça fait déjà deuxième film que ça arrive, ah, cette espèce de comédie un peu romantique, un peu teintée de drame et de maladie et tout ça. Non. Je crois que Dupontel se regarde écrire et se regarde mettre en scène.
J'ai besoin
c'est
de vous, Thierry.
C'est un film qui est de très bonne facture. Sept Césars pour ça. Oui, vous me direz cette année les Césars.
Bon, Thierry,
c'est à vous.
Adieu les cons.
Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que Au revoir là-haut a marqué une cassure et qu'il tente plus de choses en termes de mise en scène, justement. Qu'il tente aussi plus de choses, il fend un peu l'armure. Parce que jusque-là, c'est quand même très retenu. Je ne dis pas que tout est réussi forcément, mais j'aime beaucoup ce geste. Et puis, il y a cette force burlesque. Qui, en France, est capable d'écrire un personnage comme celui de Nicolas Marié, cet archiviste aveugle ? Qui est capable de lui donner
ça marche 5 minutes.
Une telle importance dans le scénario ? Parce que justement, si ça ne marchait que 5 minutes, c'est un gimmick. C'est d'en faire un vrai personnage. C'est un vrai film à trois, alors qu'on est dans une histoire à deux. Et je trouve que ça, c'est parfaitement réussi. Il y a Dupontel, en effet, comme les grands auteurs, creuse le même sillon depuis son premier court-métrage. Il y a un rapport avec la paternité. C'est son grand thème de tout son cinéma. Et ça sera le thème, à mon avis, de tout son cinéma jusqu'au bout. On peut s'en lasser, je comprends. Moi, j'aime bien les gens qui creusent et qui trouvent toujours...
Je ne juge pas le fond, je juge la forme. Je trouve qu'il fait toujours le même film. Et qu'après, au revoir là-haut, il se prend pour un grand metteur en scène qui fait toujours le même film. Je m'excuse, moi, les grands metteurs en scène changent de sujet à chaque film.
Pas forcément tous.
Adieu les cons et ses 7 Césars qui ressortent mercredi prochain. Tout comme Drunk, signé Thomas Vinterberg. Alors lui, il a carrément un Oscar avec lui. Avec notamment Mads Mikkelsen.
Afhældning. Daglig indtagelse af alkohol. Ja. Tilstræk på konstant niveau. På en halv promille.
Rien que de entendre ces quelques notes, ça me donne envie de le revoir. Mads Mikkelsen qui joue Martin, un professeur d'histoire un peu austère, mal aimé de ses élèves, chahuté parfois, qui subit la vie comme on dit. Et avec trois de ses copains, il va avoir une idée, appliquer la théorie d'un psychologue norvégien qui s'appelle Finn Skarderud, théorie selon laquelle l'homme aurait dès la naissance en fait un déficit d'alcool, dans le sens une vraie théorie. C'est donc qu'ils se disent, eh bien, on va compenser ce déficit de façon assez scientifique d'ailleurs. Ils picolent, mesurent leur taux d'alcoolémie, ça les désinhibe, ils sont plus entreprenants, plus créatifs. Et évidemment, ça se passe un petit peu mieux dans le couple, sauf que, eh bien, au fil des jours, le corps s'habitue, il faut boire de plus en plus. Messieurs, depuis Festen, Thomas Vinterberg, on a quand même beaucoup d'amour pour ce cinéaste. Fabrice me regarde bizarrement, je donnerai la parole après. Thierry,
oui,
Drunk.
On a beaucoup d'amour et on a beaucoup de hauts et de bas aussi. Et là, je trouve que c'est vraiment un haut. Oh. J'ai été vraiment épaté parce que je trouve que c'est très compliqué une fois qu'on commence ce genre de film-là.
Ah là, ça tient.
Voilà, est-ce qu'on va tenir sur ce côté vraiment amoral de bout en bout ? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas nous faire une leçon ? Et finalement, il faut revenir, voilà. Ou alors, au contraire, on va essayer d'en rajouter dans la provoque. Et le film parvient, ce que ne fait pas toujours Vinterberg dans ses films, jusque-là, à rester sur cette fine crête. Et c'est porté en plus par un acteur quand même dingue. C'est-à-dire que...
Et un quatuor.
Oui, mais je trouve que si lui, il est quand même au-dessus des autres et il les entraîne. Non, ça vaut vraiment le coup.
Et quelle fin,
sans modération.
Sans en dire plus, quelle fin. Drunk, Fabrice Leclerc.
Quelle fin, ça je suis tout à fait d'accord. Oui, non, c'est un film hors du temps. C'est un film, vous l'avez dit, qui a gagné un Oscar, qui a gagné un BAFTA, qui a gagné un Golden Globe, qui aurait sûrement gagné un Grand Prix à Cannes si le Festival de Cannes avait eu lieu l'année dernière. C'est Thomas Vinterberg, en état d'apesanteur, en lévitation. Il faut savoir qu'il a perdu sa fille sur les premiers jours du tournage et que cette ode à la vie et à l'épicurien et au fait de se lâcher même dans les substances illicites et souvent salvateur. C'est, pour moi, c'est un film pavé de moments absolument extraordinaires. C'est un film aussi un peu long parfois. Je trouve que les séquences à l'école sont peut-être un peu longues. Il y a un peu trop de justifications. Moi, je serais parti plus dans le délire. Après, on voit un film comme ça tous les 4-5 ans. C'est totalement immoral ou immoral, je ne sais pas. En tout cas, c'est un grand film qu'il faut absolument voir et revoir, parce que c'est un film qui se revoit. Et puis, cette scène de fin dont on... mais voilà, je pense qu'on peut se la passer en boucle.
Voilà, Drunk de Thomas Vinterberg. On a aussi parlé d'Adieu les cons, nouveau film d'Albert Dupontel. Et maintenant, on va dire quelques mots d'ADN de Mai Wen, avec notamment Mai Wen, Louis Garrel et Fanny Ardant.
À mes enfants.
Mon papy avec ses deux filles.
À mes petits-enfants.
Papy. Papy.
Et à mes arrière-petits-enfants.
On est vraiment désolés.
Qui poursuivent le chemin tracé.
Ma mère, elle a 50% algérienne. Donc moi, la moitié de 50, c'est 25.
Tu voudrais bien me donner ta salive pour un test ADN complet ?
Ah. Voilà, Mai Wen qui est née, jeune femme, divorcée, mère de 3 enfants, qui tient grâce au soutien de son grand-père, Émir, lui-même en maison de retraite. C'est lui qui la protège notamment de cette mère qui paraît si toxique, campée par Fanny Ardant. C'est une famille compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des rancœurs, des non-dits, jusqu'au jour où ce grand-père va donc mourir. La famille se déchire et Neige, vous l'entendiez, va vouloir connaître ses origines, son ADN. Alors, il faut préciser que Mai Wen a décidé de faire ce film à la mort de son propre grand-père. Voilà, c'est un film intéressant. Mais c'est Mai Wen, Mai Wen, Mai Wen, et moi je, et moi je, et moi je. Fabrice Leclerc.
Et moi je, et c'est surtout Mai Wen qui découvre qu'on peut perdre ses grands-parents et être triste et s'interroger sur ses origines, se demander si sa famille est dysfonctionnelle, pleurer beaucoup, crier beaucoup, s'engueuler jusqu'au vulgaire. Moi, à la rigueur, j'aimerais bien avoir une famille comme celle que dépeint Mai Wen dans certains de ses films, parce que c'est tellement outré, c'est tellement... hurlant, c'est tellement sonore, c'est tellement pas la vie. Alors, c'est sûrement sa vision de la vie. Mai Wen vient de découvrir que quand on perd son grand-père et quand on a une famille un peu dysfonctionnelle, eh ben c'est compliqué et qu'on souffre. Bah ouais, on le savait avant. En fait.
Bon Thierry.
Le film ne fonctionne pas.
Dans ce cas-là, il faut enlever 8 dixièmes du cinéma mondial.
Du cinéma français.
Mondial. Ah ben non, parce que on enlève Love Story aussi, parce qu'on on est triste quand sa femme meurt du cancer. Enfin, donc voilà. Donc, moi.
Non, mais ce que je veux dire, c'est autocentré. C'est totalement autocentré.
Et les réalisateurs sont autocentrés. Et François Truffaut, quand il fait les 400 coups, c'est autocentré. Ce que j'aime bien chez Mai Wen, c'est qu'elle peut maillasser autant que mon portrait.
Je sais, c'est ça.
Et c'est ça, moi, qui marche. Alors, évidemment que c'est trop long. Évidemment qu'il y a des réflexions dont on peut se passer. Mais il y a des moments de grâce. Il y a de la drôlerie. Louis Garrel est de nouveau fait un. Dans le rôle de
c'est le seul.
Voilà, qui est drôle. Il y a une scène de choix du cercueil avec Fanny Ardant qui dure peut-être 10 minutes, un quart d'heure.
Est-ce qu'il faut le prendre en bois, en carton.
Et puis, il y a une énergie, il y a une vie. Alors, moi, je comprends qu'on soit, mais vraiment qu'on n'aime pas du tout. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle sait ça et elle poursuit et elle continue dans cet axe-là. Ben voilà, c'est du 100% Mai Wen. Moi, j'adhère. Et j'adhère parce que parfois, ça m'agace.
Alors pour moi, le bal des actrices et Polly, c'était du 100% Mai Wen. Ça, c'est vraiment Mai Wen qui se regarde le nombril et qui se l'épile. Hein. Excusez-moi, mais...
ADN de Mai Wen. On enchaîne parce que dans la famille qui se regarde le nombril, on peut faire exactement la même réflexion à Garçon Chiffon, première réalisation donc de Nicolas Maury. Vous connaissez peut-être en tant qu'Hervé dans la série 10%. Avec Nicolas Maury qui joue le rôle principal et Nathalie Baye notamment.
Ça raconte quoi ? Tu me fais le speech ?
Le pitch.
C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
C'est pour toi.
Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis.
Pourquoi on veut pas de moi ?
Pour ces cons-là, tu es trop.
Trop ? Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé.
Ça va aller, mon chiffon.
Ça va aller, mon chiffon. Nicolas Maury qui joue donc ce jeune comédien qui n'arrive pas à faire son trou dans le milieu, qui est aussi en crise de couple parce qu'il souffre d'une jalousie maladive. Il est en crise d'identité. Qui est-il au fond? Que veut-il? Et pour répondre à cette question, il va retourner chez maman, joué par Nathalie Baye dans sa belle maison du Limousin, celle-là même qui le surnommait donc Mon Chiffon. Alors, c'est un film excentrique, un poil égocentrique, on le disait, mais je trouve pour un premier film une vraie proposition de cinéma. Thierry Chaise.
Si le narcissisme était un critère pour juger une œuvre, tout l'œuvre de Dolan, par exemple, n'existerait pas.
Ça, c'est vrai.
Alors oui, c'est narcissique. Simplement, moi, je trouve que Nicolas Maury en fait quelque chose. Déjà, on ne peut pas dire que son personnage soit le plus sympathique de tous. C'est-à-dire que ce n'est pas « je suis le plus grand, je suis le plus fort ». Il y a à peu près toutes les tares possibles. Il est génial et tout. Et moi, ce que j'aime, c'est l'excentricité dans la mise en scène. Alors, tout n'est pas de nouveau, comme pour My One, tout n'est pas réussi, mais au moins, il tente des choses. Et le regard qu'il porte justement sur les autres. Moi, vraiment, de Jean-Marc Barr, Laure Calamy, il y a une grande dame de théâtre, qui ses dernières scènes s'appellent Florence Giorgetti, qui joue sa grand-mère. Il l'a filmée pour la dernière fois. Elle est émouvante. Nathalie Baye. Et voilà, il a le goût des autres chez les acteurs. Il sait très bien diriger. Et il raconte une histoire éminemment personnelle. Là aussi, comme My One, je comprends totalement que ça agace. Moi, ça me réjouit. Voilà.
Fabrice Leclerc, garçon chiffon.
Le cinéma de My One est préfabriqué. Celui de Nicolas Maury est plein de fulgurances. Alors, je suis d'accord, c'est du cinéma égocentrique. Il parle de lui. Il joue ce personnage depuis déjà longtemps. J'aimerais bien le voir dans quelque chose d'autre. Mais il y a des moments totalement en lévitation dans ce film. Il y a des bribes de personnages, des bribes de scènes comme ça, où il y a une fulgurance, et puis on repart dans ce phrasé un peu énervant, dans ces postures un peu faciles, et puis on revient à des moments de magie totale. Il y a quelque chose dans ce film qui se passe. Il y a réellement quelque chose dans ce film qui se passe. Ce que je disais avant sur My One, voilà, on est aux antipodes, on est dans le même cinéma, et on est aux antipodes. Parce que je crois qu'il y a beaucoup d'amour, et il y a beaucoup de volonté, et il y a beaucoup de regard et d'intérêt chez l'un, et il y a un égocentrisme terrible chez l'autre.
Il continue.
Non, je continue pas. Mais
bon, garçon chiffon, il faut y aller. Voilà.
Oui, il faut y aller, malgré quelques petites furitures. Bien sûr qu'il faut y aller. De toute façon, il faut aller voir tous les films dont on a envie. Même ADN.
Surtout ADN.
Non, mais allez voir ce que vous voulez.
Garçon chiffon de Nicolas Maury, ADN de My One, Adieu les cons d'Albert Dupontel, Drunk de Thomas Vinterberg. Voilà, on ne pouvait pas parler de tous les films qui ressortent. Il y a aussi Calamity Jane, qui est un très beau film d'animation. Il y a 30 jours max, il y a Petit Vampire, autre film d'animation. Il y a Polly, il y a plein de films qui ressortent en salle. Mercredi, donc, allez-y. Et il y a aussi des nouveautés. Falling, formidable, de Viggo Mortensen. Envole-moi, Mandibule, Slalom, l'étreinte. Tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Et enfin, on pourra retourner vous voir, Marjorie Adelson, à la sortie des salles, vous tendre le micro pour savoir aussi ce que vous pensez de tous ces films. Quoi qu'il en soit, allez au cinéma mercredi pour profiter de la réouverture des salles. Fabrice Leclerc, Paris Match, merci beaucoup. Thierry Chaise, première. Merci d'être venu également dans ce studio de Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson, émission que vous retrouvez en podcast. Abonnez-vous, ça vous donnera des idées encore une fois pour aller en salle. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 14h, 15h sur Europe 1.